gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à toi qui écoutes le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org ou sur plein d'autres moyens de nous écouter. C'est donc le retour au direct à 22h et quelques minutes et ce soir c'est la causerie en compagnie de Clara à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Fab.
Bonsoir, qui n'est pas la technique lui.
Non,
et bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir, sinon je l'aurais dit. Eh bien, les présentations sont faites. Et donc, ce soir, c'est Fab qui ouvre le bal et qui nous parle des 1,5 degré de plus, c'est plié.
Ben ouais, parce que figurez-vous que ce 10 janvier, le service chargé du changement climatique de l'Observatoire européen Copernicus, appelé C3S ou C3S, selon la langue que vous parlez.
Tu maîtrises très bien l'anglais.
Ouais, et je ne le ferai pas en allemand, je ne sais pas faire. A confirmé que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire rien que ça. Ouais, rien que ça, voilà, 2024. C'est déjà en soi une mauvaise nouvelle, hein, parce que bon, c'est pas une super bonne nouvelle, mais elle n'arrive du coup pas toute seule. Copernicus confirme que sur l'année 2024, mais aussi sur la moyenne des deux dernières années, le monde a dépassé les 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà. C'est-à-dire que cela représente une hausse des températures inédite dans l'histoire de l'humanité. Tu as un trou problème avec mon micro ? Il y a Jean-Yves, il fait des signes.
Non, garde un peu de mystère.
Bon.
C'était très grave, c'est grave dans mes oreilles.
Ah, mais c'est ma voix
parce
qui est
grave. Parce que le sujet est grave.
C'est parce que le sujet est grave et du coup,
okay,
ma voix,
on en est là. Okay.
Du coup ma voix aussi. Peut-être qu'il y a un peu trop de grave dans ma voix, je ne sais pas. Bon, alors je vais le dire avec mes mots hein, quand même. Non, ce n'est pas parce qu'il fait froid l'hiver hein, que le dérèglement climatique n'existe pas. D'ailleurs, malgré la vague de froid de ces derniers jours, les périodes de froid ont diminué en longueur et en intensité. Ainsi, le nombre de jours en dessous de zéro toute la journée sur Lyon est passé de 9 en moyenne entre 1980 et 1990 à 2 en moyenne entre 2010 et 2020. Donc on voit bien quand même que c'est un petit peu beaucoup moins. Voilà.
Oui.
Et on sent bien que cela garde la même pente hein, pour les années à venir. Parce que Copernicus nous dit qu'il n'y a pas de raison qu'on parte dans l'autre sens. Autre point important, toutes les données scientifiques avaient donc prévu cette courbe de façon plus ou moins forte. Alors je le redis, on a dans les rapports qui sont remis, toujours plusieurs scénarios. Là aussi, vous pourrez aller voir sur le site de Copernicus, il y a plusieurs scénarios. Pourquoi ?
Oui.
Parce que les scientifiques ne sont pas des religieux. Donc, ils ne vous disent pas ça va se passer comme ça. Ils vous disent ça pourrait se passer comme ça ou comme ça.
Mais je crois que tu avais évoqué déjà dans une causerie il y a quelques temps, les différents scénarios.
Du GIEC, ouais. Là, j'avais pris ceux du GIEC.
Oui, pardon. Ouais.
Et là, c'est Copernicus. Bon, honnêtement, ils sont à peu près. Ils se rejoignent. Hein, c'est pas, y a pas,
oui, voilà. Et puis ça rejoint cette notion de plusieurs scénarios.
Ouais. C'est l'éternel problème des sciences prédictives, comme on dit. Alors, quand on parle de sciences prédictives, parce que j'ai vu un climato-sceptique proche de Trump expliquer que si on parlait de sciences prédictives, c'est qu'en fait on faisait de la magie. vous savez, comme les cartomanciennes. Mmh. Alors, pas du tout. La notion de prédictive, c'est justement de prévoir plusieurs scénarios probables de façon à ce qu'on puisse s'adapter en fonction de celui qui semble s'enclencher. Vous voyez, c'est ça la science prédictive.
Oui, et qui s'appuie au départ
sur des données factuelles.
Oui, sur des éléments, et ensuite, je sais pas, il y a des variations peut-être d'un élément, ça fait un scénario, deux éléments, etc.
Et puis, parce qu'en fait, la climatologie, c'est compliqué. Mmh. C'est-à-dire que c'est tellement multifactoriel, ça repose sur tellement de choses différentes que c'est compliqué de dire ça va être de ce point A à ce point B. Généralement, on dit on part du point A, on arrivera au point B, et puis les routes, elles peuvent passer par plusieurs endroits. Par contre, il y a ce qu'on appelle une tendance. Et la tendance, c'est que dans tous les scénarios, on va vers un réchauffement global de l'atmosphère terrestre et des océans. Donc en fait, on va vers du dérèglement climatique, tout simplement. Alors oui, j'ai vu, donc je disais, les climato-dénialistes nous dire « Ouais, mais les scientifiques, ils disent qu'on est dans l'accord de Paris, alors ça va. » Ouais, alors parce que quand ça les arrange, l'accord de Paris, c'est cool. Quand ça les arrange pas, c'est pas cool. Mais c'est le principe d'un complotiste. Les scientifiques, ils alarment sur le fait que le monde doit trouver des solutions rapides, car les températures mondiales sont désormais au bord du gouffre. Je reprends leur terme. Ils sont plusieurs à l'avoir dit en disant, en fait, on va prendre une image pour que vous compreniez. Il y a nous, il y a le gouffre, on est au bord. Voilà, c'est pour que... Et au bout d'un moment, les scientifiques ne savent plus comment dire les choses. Et ils risquent de dépasser les limites cruciales de 1,5 degré de réchauffement, même si toutes les bornes les plus irréversibles de l'accord de Paris n'ont pas été atteintes. En gros, continuez à se rassurer que cela revient, ça revient à se dire que même si l'avion est en piqué, c'est pas grave parce que les roues sont bien gonflées. Voilà, parce que la borne des roues est pas passée, donc ça va, on peut continuer à être en piqué. C'est ce qu'expliquent les scientifiques, c'est pas parce que quelques bornes de l'accord de Paris n'ont pas été dépassées que c'est pour autant hyper joyeux, vous voyez. Et comme ils l'ont rappelé, d'ailleurs je reprends un truc que j'ai lu ce matin, il y a un collectif de scientifiques climatologues qui explique que lorsque l'on met 30 bornes, l'idée c'est pas d'aller au bout des 30. Théoriquement, c'est pas l'idée.
Oui, mais là, peut-être que ce que le climato-dénialiste veut dire, c'est bon, on a encore un peu de marge.
Voilà, on n'a pas tout niqué encore.
On n'a pas encore tout gâché. On attend d'être vraiment sûr d'avoir tout gâché avant peut-être de réagir.
Non, parce que par exemple, il rappelait que sur les 30 bornes, il y a le fait que la Méditerranée est invivable parce que trop chaude. Donc on espère bien qu'on va pas passer cette borne-là, vous voyez, c'est le truc...
T'en es presque à te dire, oui, en fait, les climato-dénialistes, tant que la Méditerranée...
Elle ne boue pas, en fait, ça va.
Elle
ne va pas bouillir, une image, mais tout ça pour dire que, par exemple, une des bornes sur la Méditerranée, c'est une eau de surface qui pourrait atteindre les 30 à 35 degrés, ce qui fait qu'en fait, comme la Méditerranée est une mer fermée, contrairement à des océans ouverts, il y a moins de renouvellement aussi d'oxygène, et donc la vie descend dans les profondeurs, parce qu'en fait... là où il fait plus frais, et en fait toute la surface vient à mourir, il n'y a plus de bancs de poissons, de choses comme ça, et donc ça c'est une des bornes, mais on espère bien ne pas arriver à cette borne là par exemple. Donc les phénomènes violents, ils sont aussi plus fréquents, alors ça c'est ce que Copernicus révèle. Il y a beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes et meurtriers dans le monde entier qui ont frappé la planète l'année dernière. Alors on s'en souvient de beaucoup, puis les plus récents c'est Mayotte et Los Angeles, je pense que là tout le monde a ça à peu près en tête, et ils avaient différentes formes, il y avait des tempêtes violentes, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, des incendies de forêt. Enfin, c'était vu varier.
Voilà. Et Los Angeles, c'était encore en 2024 ?
Ouais, ça a commencé juste avant le premier feu a démarré juste avant le nouvel an.
Okay.
Voilà. Mais c'était 2024. Bon, par contre, après, il s'est propagé beaucoup plus vite dans les 10 jours qui ont suivi. Et ça, on a pu voir ce que ça a donné. Jamais depuis le recensement mondial, que le recensement mondial est fait, des catastrophes, il y a eu autant de catastrophes que l'année dernière. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'année la plus catastrophique jamais enregistrée. Alors, les scientifiques rappellent aussi que catastrophe naturelle, parce que c'est comme ça qu'on y appelle, ne veut pas dire qu'elles ne sont pas provoquées par le dérèglement climatique, provoquées par l'homme. Parce que les scientifiques, là encore une fois, n'étant pas des religieux, ils n'estiment pas que l'humain est en dehors de la nature. Il fait partie de la nature, l'humain, donc du coup, c'est naturel.
Les éléments dont tu parles, ce sont des éléments naturels.
Naturels, tout à fait.
L'eau, le vent, le feu, tout ça, c'est naturel. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas le fruit de l'amplification d'un réchauffement global, en fait.
Voilà, et en fait, c'est un peu le scénario, l'un des pires du GIEC qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, le dérèglement climatique ne crée pas de nouvelles formes de catastrophes naturelles, mais amplifie celles qui pouvaient potentiellement exister ou qui existaient déjà. Mais quand on sait que c'était déjà pas simple, ça va être encore moins simple. Donc Copernicus, il a d'ailleurs été chargé de mener des études sur le long terme. La conclusion de leur dernière étude est sans détour, la vie et les moyens de subsistance des populations du monde entier sont globalement menacés. Voilà, c'est la conclusion de l'étude. Le rapport note que chacune des 10 dernières années, de 2015 à 2024, a été l'une des 10 plus chaudes jamais enregistrées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus nier le dérèglement climatique. Ou alors, il faut vraiment être très 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 têtu. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce rapport sur le site de Copernicus. Vous tapez Copernicus, tout simplement. Mais je mettrai le lien sur le blog. Et aussi celui plus spécifique qui s'appelle 2024 Global... Alors, je ne l'ai pas dit en anglais. Alors, Global Climate Highlights. Voilà. Les hauts. Je vous le traduirai. Qui liste. Mais il est en français. Vous pouvez le traduire en français sur le site. Qui liste et cherche à comprendre les conditions exceptionnelles que le monde a connues l'année dernière. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est que. Cet emballement, on va appeler ça comme ça, des catastrophes naturelles, on l'estimait possible, mais on ne l'estimait pas avant 2040. Et nous sommes en 2024. Donc, ça a un peu titillé les scientifiques de se dire, ça va un peu plus vite que prévu, il doit y avoir des trucs soit à côté desquels on est passé, soit qu'on a minimisé par erreur. Et donc ça oblige à se reposer des questions. C'est le principe de la science, je vous le rappelle.
Donc ça voudrait dire que des scientifiques ont reconnu qu'ils ne sont pas plantés, mais en tout cas qu'il y a eu un peu une...
Non,
mais...
Ils ont mésestimé, c'est le terme d'ailleurs.
Non, c'est intéressant.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent, on avait vu une courbe, comme ils le disent, pour les accords de Paris, ils avaient vu une courbe à 1,5 degré de plus pour 2030. On les a atteints en 2024. Par contre, ça va beaucoup plus vite pour accélérer les dérives climatiques, on va appeler ça comme ça, ou les catastrophes climatiques, que ce qu'ils estimaient. Mais tout simplement parce qu'encore une fois, la climatologie, c'est bourré de plein de facteurs différents et que c'est pas un truc qu'on peut trouver comme ça du jour au lendemain.
Ah, mais je disais, alors, descendre les scientifiques, c'est justement, je trouve que c'est intéressant et que ça démontre que c'est pas un dogme, là où justement les dogmes, on ne les réinterroge pas.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je veux au passage rappeler que la limite de 1,5%, elle ne sort pas de nulle part. Je suis fatigué, moi. 1,5 degré, ça ne sort pas de nulle part, mais d'une étude de 2018 qui avait été faite pour l'ONU, qui estimait qu'en dessous de 1,5 degré, on pourrait sauver les récifs coralliens de l'extinction, empêcher la perte massive de la calotte glaciaire de l'Antarctique, et aussi, accessoirement, éviter la mort et la souffrance de nombreuses personnes sur Terre. Voilà. Alors pourquoi je le dis avec un peu de cynisme comme ça? C'est parce que quand on entend justement les climato-dénialistes parler du climat, ils vous parlent toujours des ours blancs, tout ça. Ils oublient qu'en fait, les êtres humains sont touchés directement aussi par le dérèglement climatique et que ça fait des morts, en fait. C'est donc juste de ça dont on parle, c'est-à-dire la survie de millions d'êtres humains. Voilà. Alors, il y a un côté en ce moment tous coupables. Voilà, c'est un petit peu le point d'interrogation. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faudrait pas oublier que dans le dérèglement climatique, le capitalisme et la lutte des classes jouent en fait un rôle majeur. Lutte des classes remportée en ce moment par les riches, quand même, faut quand même l'admettre.
Ah bon ?
Car si tout le monde contribue au gaz à effet de serre responsable du dérèglement, tout le monde n'y contribue pas de la même façon. Alors, il y a une association qui s'appelle Oxfam qui révèle, par exemple, que les 1% les plus riches de la planète ont mis 10 jours pour épuiser leur part de budget carbone mondial. 10 jours, soit 2,1 tonnes de dioxyde de carbone par personne. Voilà. Pour être précis, il s'agit de la quantité de CO2 qui peut encore être ajoutée à l'atmosphère sans que les températures mondiales ne dépassent la barre des plus 1,5 degrés. Voilà. Le niveau maximal fixé par l'accord de Paris, qui lui a été signé en 2016. Voilà. 10 jours, je le redis. Les 1% les plus riches. Alors,
donc il faudrait que là ils décèdent ou qu'ils hibernent, quoi.
Ouais, par exemple. Ouais. Donc prenons deux exemples. Taylor Swift, qui prend un avion pour faire. Qui décolle et qui réatterrit pour traverser en fait une ville qui se traverse en 6 minutes en voiture.
Non, t'es pas sérieux.
Non, je suis sérieux, vous pouvez chercher, c'est véridique. Voilà. Ou, un autre exemple, plutôt européen cette fois-ci, un premier ministre qui prend un Falcon pour aller à la mairie de Pau, parce qu'il est aussi maire de Pau. Voilà. C'est un autre exemple comme ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas le faire en télétravail, ça, a priori. Mmh. Il peut, par contre, faire la réunion, j'en avais parlé, pour Mayotte, en télétravail. Ouais. Bon, il y a des priorités. enfin, je suis un peu... Ouais. À titre d'exemple, hein, pour dépasser son bilan carbone personnel, un habitant du Burundi devrait avoir une année qui ferait 1500 jours. Voilà.
Donc 5 ans, quoi.
Quasiment. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les riches qui ont tendance à émettre beaucoup de CO2. Et amis auditrices et auditeurs, si tu nous écoutes d'un pays européen, tu fais partie des riches. Mmh. Je suis désolé de te le dire, même s'il y a des pauvres chez les riches, mais tu fais partie de l'équation, on va dire ça comme ça. Bon, alors je sens que si Beyrou ou Macron nous écoutent, oui, des fois ça pourrait arriver, ils diront « mais pas en France, voyons
hein !» Bien sûr.
Et ils auraient raison, parce qu'en France, c'est pire qu'au niveau mondial. Donc ils ont raison. Les 0,1% les plus riches de la population ont épuisé leur budget carbone depuis le 7 janvier.
Ah,
on applaudit.
Ah,
on
bravo. Applaudit. Là, il fallait, bravo la France. Voilà. Enfin les riches.
Donc
français.
Le Français le plus riche, Bernard Arnault, a d'ailleurs pulvérisé le record. Il a dépassé son budget carbone annuel dès le 1er janvier à 2h15 du matin. On est les champions. On est les champions. Voilà.
Enfin,
donc
ils sont les champions.
Ouais. Ben non mais c'est la France.
Ouais, donc, ah ouais ouais donc, c'est vrai.
Non mais je déconne. Non voilà. Donc oui ils auraient raison. C'est pire en France. Voilà, faut être très clair. Alors Oxfam souligne qu'il faudrait quasiment 3 ans, soit 1022 jours. Pour être exact, à une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population mondiale pour épuiser sa part de budget carbone annuel mondial. Vous le sentez, la notion de lutte des classes, là, où il faut que je vous la refasse, parce que on voit bien quand même qu'il y a un petit truc là qui se produit. Alors, tous coupables, hein ? Pas si simple. En fait, l'énorme part du dérèglement climatique est le fait des plus riches, que ce soit individuellement ou en parlant de pays. Si on inclut les importations, la France consomme 3 fois son possible carbone. Et pour être clair, seuls les Français qui sont sous le seuil de pauvreté n'atteignent pas leur budget carbone. Je le redis, seuls les Français qui sont sous leur seuil de pauvreté. Mais on ne peut pas effacer le fait que ce sont les plus riches qui façonnent nos modes de consommation et d'addiction à la consommation de masse. Parce que ce serait trop facile d'enlever ça de l'équation, parce que c'est là quand même. Et qui ont aussi des relais, comme les réseaux sociaux, les journaux, la télé, pour le faire, le cinéma aussi. Parce que maintenant, quand vous allez au cinéma, il y a presque autant de pubs que de bandes-annonces. Donc là aussi, c'est facile de culpabiliser tout le monde quand le mode de vie est entre les mains des plus gros capteurs d'argent du monde. C'est-à-dire les plus riches. Voilà. Alors, moi, je vous propose de tout cramer, mais pas la planète. Bah, ce serait peut-être pas mal. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on ne pourra rien changer. Et j'ai envie de dire clairement, si on attend des aménagements à la marge qui viennent de la bonne volonté des milliardaires, c'est certain, on ne pourra pas changer grand-chose. Mais ils sont bien moins nombreux que le reste du monde. Alors, il est sans doute temps de se dire qu'il faut tout cramer, sauf la planète. Qu'il faut abattre le capitalisme, exploser le tout pour ma gueule, cramer les bourses et les banques, détruire ce qui détruit le monde, tout simplement. Voilà. On peut aussi se dire que c'est utopique hein, et que c'est inenvisageable et qu'il faut être raisonnable. Bah désolé, mais être raisonnable en ce moment, c'est tenter d'arrêter les vagues de l'océan avec un râteau. Alors c'est super mignon quand c'est un enfant qui le fait. Bah c'est plutôt pathétique quand c'est les adultes qui le tentent, non ? Voilà, c'était mon analyse. Faut tout cramer.
C'est pas faux et c'est une bonne motivation pour 2025, on peut se dire.
Mais oui, mais alors pourquoi j'ai écrit ça ? Parce que il y a, et je le sais, il y a une tendance aujourd'hui, notamment médiatique, notamment dans les médias détenus par des milliardaires, à dire nous sommes tous responsables. Oui. Sauf qu'en fait, on faut graduer. Et quand on ne gradue pas, bah c'est facile de dire on est tous responsables. Parce que soyons clairs, la personne qui aurait ça en France, son bilan carbone, ça va.
Ouais, je pense pas qu'elle parte souvent. Mathieu.
Voilà. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'il faudrait tous qu'on soit RSA. C'est ça. Mais c'est juste qu'en réalité, les plus riches ont un impact hallucinant. Et je vais rappeler quelque chose ici parce que ça m'a fait rire de l'entendre. Il y a donc la présidente d'Oxfam qui est Cécile Duflo, ouais, qui rappelait par exemple qu'il y a une émission qui cartonne en ce moment, mais qui est un désastre écologique sur pied. C'est un truc qui s'appelle l'agence, où en fait les gens vendent des lofts immenses, oui, des maisons immenses, des châteaux, des trucs comme ça, pour quelques personnes qui vont vivre dedans à 3-4 dans 400, 500, 700, 10 000, 100 000 mètres carrés qu'il va falloir chauffer, électrifier, tout ça. Et en fait, elle disait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ce genre d'émission qui cartonne, parce qu'effectivement, c'est une des émissions les plus regardées en streaming et tout aujourd'hui, sont en fait des cas d'école de comment on fait passer l'idéologie bourgeoise comme étant le but à atteindre. Sauf que si on atteint tout ce but-là, on n'aura pas le temps de l'atteindre. Mmh. Vous voyez, c'est ça en fait le truc, c'est que en réalité, il y a aussi derrière une vraie organisation de la protection des bourgeois. Mmh. Voilà. Donc faut tout cramer.
Et ben voilà, le programme est donné.
Mais pas la planète.
On a retenu ça. Faut tout cramer, mais pas la planète. Je pense que c'est le mot d'ordre de 2023.
C'était mon envie d'aujourd'hui.
Bon bah très bien, on passe à la zik. Allez. En fait, quand je l'ai augmenté, il était moins sûr.
et vous êtes de retour dans La Causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et même si on a parlé un tout petit peu sur le début du titre parce qu'on avait un peu oublié de fermer les micros, c'était quand même un titre de David Lynch qui s'appelle I Know. Voilà. Et donc pourquoi David Lynch ? Pas parce que David Lynch a eu la très très mauvaise idée de mourir.
C'est fou,
un truc de dingue, quoi. Et que, bah, pour moi, et je pense pour plein de gens, David Lynch, c'était un peu un génie d'un peu tout. C'est-à-dire, c'était un réalisateur génial, c'était un musicien génial, c'était un photographe génial, c'était un peintre un peu fou. Il faut voir les toiles de David Lynch, parce que c'est vraiment un peu barré. Et puis, c'était aussi un poète. Et on n'en a pas beaucoup eu des comme ça dans l'histoire, comme ça, de l'art. Et, bah, voilà. Donc, bah, c'est une grosse perte pour l'univers, on va dire, de l'art en général. Et, bah, moi, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas, à écouter les musiques de David Lynch. Et n'oubliez pas qu'il faisait aussi souvent les musiques de ses films.
Okay.
Voilà.
Très bien.
Et on va passer à toi, Jean-Yves.
Oui.
Et toi, tu avais envie de nous parler sexualité.
C'est tout à fait ça. Ça faisait longtemps, je me disais.
Bah oui.
Deux, trois mois, je pense.
Ou un peu plus, je dirais, mon
ah, mince. Alors, en novembre 2024, étaient publiés les premiers résultats d'une enquête sur, je cite, le contexte des sexualités en France 2023. Alors, c'est le fruit de 5 années de travail et cette enquête est la 4e enquête scientifique depuis 1970 à étudier la vie affective et sexuelle en France et aussi à les replacer dans le contexte des changements sociétaux. Cette enquête, elle s'appuie sur des réponses à un questionnaire téléphonique et numérique de plus de 31 000 individus de 15 à 89 ans tirés au sort dans l'Hexagone ainsi qu'en Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion.
Et il se moque de moi quand je parle en anglais. Lui, c'est en français qu'il n'y arrive pas.
J'ai toujours dit que ce n'était pas ma première langue. Voilà pour le cadre. Alors, la nouvelle recherche de l'INSERM, parce que c'est l'INSERM qui chapeaute tout ça, permet de constater des évolutions qui s'inscrivent, en fait, pour la plupart, déjà dans des tendances mises en évidence depuis plusieurs décennies. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec ce genre d'études qui, enfin,
à long terme,
c'est que justement, il y a vraiment quelque chose où on peut être dans pas du comparatif, mais en tout cas, on peut voir les choses, on peut évaluer plus justement les changements, si on peut les appeler comme ça. Alors, il est aussi rappelé que des changements majeurs sont toutefois observés depuis le début du XXIe siècle, notamment pour les femmes, et ce qui est évidemment en lien avec le renforcement de leur autonomie sociale et économique, de diffusion de la norme d'égalité entre les sexes et les sexualités, ou encore de poursuite de la transformation des structures familiales. Les évolutions législatives, elles n'y sont pas non plus étrangères, comme la loi par exemple en 2013 sur le mariage pour les couples de même sexe, ou la loi sur les techniques de procréation assistée, PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules, qui elles datent la loi de 2021. Elles ont contribué évidemment à réduire les discriminations institutionnelles à l'encontre des personnes qui ont des partenaires de même sexe dans leur accès au mariage et à la parentalité. Alors je précise, réduire ne dit pas faire disparaître les discriminations. Non, c'est juste qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, mais
ce qui n'est même pas dit dans l'enquête. Quoi.
Disons que ça a aidé à une meilleure acceptation.
Oui. On va dire ça.
Je veux pas dire que l'acceptation soit totale.
C'est tout à fait ça. Alors l'idée ce soir, c'est évidemment pas de vous assommer de chiffres, même si vraiment j'en ai fortement l'envie parce que il y a plein de graphiques, plein de résultats. C'est vraiment fou.
Avec les graphiques à la radio, ça passe toujours très bien.
Ouais, c'est ça justement parce que c'est juste imbuvable à la radio. J'ai déjà tenté moi-même, je crois, de faire des sujets avec 15 millions de chiffres. En fait, moi je m'y perds et vous, je pense que c'est juste dégueulasse à écouter. Donc je ne fais pas ça. Ce soir, je vous partage donc quelques points de l'enquête et je propose que justement on mette l'enquête sur le blog de l'émission afin que vous puissiez tranquillement prendre le temps de vous y plonger parce qu'il y a vraiment matière et que, encore une fois, ce que je vous rapporte là, il y a des graphiques, il y a des comparatifs, il y a vraiment, c'est une enquête complète quoi. Donc la première donnée qui était intéressante, bah, c'est l'âge médian du premier rapport sexuel. On a souvent tendance à penser, ou en tout cas c'est un peu une légende un peu comme ça, c'est que les jeunes font l'amour de plus en plus jeunes. Bon, et ben dans les années 2000, au milieu des années 2000, il était l'âge médian de 17,3 ans pour les femmes et pour les hommes. En 2023, il est de 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes. Alors ça, c'est une hausse en fait qu'on observe également dans d'autres pays comme le Danemark, Norvège, Suède ou même encore les États-Unis. Et ce que je trouve intéressant à observer, même si on n'a pas forcément d'explication, ou du moins une explication ne suffirait pas. Et ce que je me notais, on peut peut-être penser au Covid. Parce que si l'étude date de 2023, etc., on sait que le Covid a eu des conséquences. Alors, je parle pas là.
Pour se rencontrer, c'était pas pratique.
Pour se rencontrer, et c'est aussi noté, on va dire, dans le résumé de l'étude, c'est qu'on sait que pour les plus jeunes, il y a eu des incidences sur la santé mentale. Ce qui va pas forcément amener à être.
À se rapprocher des autres.
À se rapprocher des autres et à se dire, tiens, on va baiser. On va faire l'amour. Pardon.
On peut rappeler quand même ce qu'est un âge médian, parce que.
Oui, tu fais bien.
C'est pas un âge moyen. Hein, un âge médian, ça veut dire que 50% d'une population fait l'amour après et 50% avant. Oui. C'est-à-dire que c'est l'âge à laquelle on est à 50-50.
C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Autre donnée intéressante, hein, de mon point de vue, c'est le nombre moyen de partenaires sexuels au cours de la vie. Hein ? Alors, le nombre moyen de partenaires sexuels au cours de la vie chez les femmes de 18 à 69 ans, ayant déjà eu un rapport sexuel, bah, il a doublé en 30 ans. En 92, on était à 3,4 partenaires en moyenne. On coupait en deux. Et en 2023, on est passé à 7,9. Ce qui est quand même...
Deux fois plus.
Waouh.
Quel calcul.
C'est fou, ça. Presque deux fois. Oui, si, on y est.
Un peu plus de deux
même
fois plus.
Même plus que deux fois, oui. Et pour les hommes, en 92, hein, on était à 11,2 partenaires en moyenne pour atteindre en 2023 16,4 partenaires en moyenne en 2023. Donc, pardon, je me répète. Donc, si la quantité ne fait pas la qualité... je ne peux enlever de mon esprit que le patriarcat n'est pas vraiment étranger quand même dans l'écart du nombre de partenaires entre hommes et femmes, parce que quand même il y a un truc, enfin moi c'est quand je disais ça, je me dis bah oui en fait on a quand même toujours ce truc de un mec qui a 20 000 partenaires, on dira que c'est un don Juan, waouh, lui il est bon. Par contre une femme qui a beaucoup de partenaires, elle sera beaucoup plus vite taxée de salope, en fait. Donc, ça aussi, alors, c'est pas l'unique.
Non, mais ça joue.
Mais c'est vraiment. Enfin, le patriarcat, quoi. On va pas faire de dessin. Les premières concernées, elles savent de quoi je peux parler. Et, et puis les autres, ben, faut peut-être qu'on s'interroge, quoi.
Ouais, et il faut voir aussi que c'est une tendance qui aussi touche la jeunesse aujourd'hui. Parce qu'il y a eu toute. Ils appellent ça une trend sur les réseaux sociaux autour du body count. C'est-à-dire combien tu as eu de partenaires avant de m'avoir. Oui, c'est hyper important, a priori.
Ouais.
Mais ce qui était étonnant à constater, c'est qu'il y a eu une vague de haine envers principalement les femmes qui, dans ces trends-là, en fait, affichaient un nombre de partenaires. Plus élevé que, enfin, on s'en fout en fait, mais qui elle disait, bah, je sais pas, j'ai eu 10 personnes, ça va. Et en fait, c'était vu tout de suite comme négatif, alors que les mecs étaient très peu attaqués, et que les femmes étaient extrêmement attaquées. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on retrouvait ça aussi, et là, c'est là peut-être qu'il y a une vraie question à se poser, et qu'on voit que le patriarcat a un poids énorme, c'est qu'on retrouvait ça aussi dans la communauté LGBT, où les lesbiennes étaient montrées du doigt lorsqu'elles avaient eu beaucoup de partenaires, et les homosexuels hommes étaient eux encensés quand ils avaient dépassé un nombre, voilà. Donc on voit bien que cette petite course patriarcale au nombre de partenaires est toujours là et qu'il va peut-être falloir là aussi la brûler.
Ouais, c'est un projet pour 2025.
Ouais, moi je brûle tout.
Alors dans la lecture de cette enquête, celles et ceux qui l'ont réalisée parlent aussi du paradoxe contemporain de la sexualité. Je trouvais ça assez intéressant aussi, ce paradoxe de la sexualité. Alors à savoir, une plus grande diversité en même temps qu'une moindre intensité de l'activité sexuelle avec un ou une partenaire. En fait, la diversification de l'activité sexuelle, hein, elle est visible à travers l'augmentation du nombre de partenaires du sexe opposé ou de même sexe, comme évoqué précédemment, la prolongation de l'activité sexuelle aux âges avancés, ou l'extension des répertoires sexuels. Alors, des répertoires sexuels, hein, comme la masturbation. Donc on va parler plutôt de pratiques. Alors concernant par exemple, pardon, tu voulais redire.
Non, c'est ça, c'est un truc de
scientifique.
De scientifique, oui, oui, répertoire ça. Sexuel. Ça, on sent la science.
Oui, c'est ça. C'est
ça, un peu un peu froid.
En même temps, faut bien nommer les choses.
Oui, hein. Tout à fait.
Alors concernant la prolongation de l'activité sexuelle, hein, en 2023, 56,6% des femmes et 73,8% des hommes restent actifs sexuellement après 50 ans. Là encore, hein, les écarts hommes-femmes ne font que confirmer hein, que le patriarcat n'est quand même pas mort. Oui, parce que quand même, il y en a toujours qui pensent que ça y est, c'est fini, on y est, tout le monde est égal à égalité. Et en fait, alors là on parle de sexualité, évidemment, je ne vais pas réduire la lutte pour l'égalité à la sexualité.
Non, mais... C'est-à-dire que la représentation des femmes de plus de 50 ans les enferme dans quelque chose où elles peuvent se priver de sexualité.
Ben, en tout cas, oui, en tout cas la sexualité...
Vu ça va en augmentant, c'est que c'est un truc qu'il fallait débloquer.
Et aussi marqué par le patriarcat, enfin, je veux dire...
Bah, toujours, hein.
Bah, oui, oui, évidemment.
Et même, peut-être même principalement.
Oui. et concernant... alors je recite les répertoires sexuels et là plus précisément la masturbation à tous les âges, je cite hein, les personnes déclarent plus souvent avoir déjà pratiqué la masturbation. L'augmentation est beaucoup plus prononcée chez les femmes. En 1992, 42,4% des femmes de 18 à 69 ans déclaraient s'être déjà masturbées. Et ben on atteint les 72,9% en 2023. Chez les hommes du même âge, hein, 18 à 69 ans, cette pratique est intégrée au répertoire sexuel de longue date. Ah bon ? Et l'augmentation est moins marquée, hein, passant de 82,8% en 92 à 92,6% en 2023. Et je me disais, ben voilà un résultat encourageant, hein, parce que si les mecs ont complètement intégré la masturbation hein, comme une pratique classique, habituelle, qui ne fait de mal à personne, bah j'espère en fait qu'elle sera autant pratiquée par les femmes dans les années à venir. Parce qu'on le rappelle, on en a quelques fois parlé ici, bah la masturbation c'est s'approprier, c'est appréhender son corps, découvrir ce qui nous plaît, ce qui vous plaît, et il n'y a absolument aucun mal à cela. Hein. Et si Dieu vous observe, bah crevez-lui les yeux, parce que bah il n'a pas regardé les gens dans leur intimité. Hein. Ça serait bien ça aussi, qu'il apprenne ça, le Dieu. Bref. Alors parallèlement, hein, pour revenir au paradoxe évoqué plus tôt, les personnes déclarent... Alors, le paradoxe, vous vous souvenez ce que
ouais,
je disais
oui, ouais, okay. On a suivi ton sujet,
okay, pas, c'est, hein. C'est juste pour être sûr. Et si vous n'avez pas suivi, bah, vous reprenez du début. donc parallèlement, pour revenir au paradoxe évoqué plus tôt, hein, les personnes déclarent avoir eu moins souvent de rapports sexuels dans les 12 derniers mois qu'en 2006. Surtout celles qui ne sont pas en couple, et la fréquence des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines a diminué, autant chez les personnes en couple que les personnes qui ne sont pas en couple. Et là aussi, c'est des tendances qu'on observe aussi dans d'autres pays. Allemagne, États-Unis, Finlande, Japon ou encore le Royaume-Uni. Alors je me disais, peut-on conclure qu'on baise moins mais mieux ? J'aimerais pouvoir vous le confirmer. J'en suis pas sûr.
Bah, ça semble quand même être plutôt le cas. Parce que j'avais lu une autre étude où ils avaient l'air de dire que globalement,
oui.
Le taux de satisfaction au plaisir, notamment des femmes, était plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était
oui.
il y a 20 ans.
Oui, t'en avais
donc,
parlé.
A priori, t'en avais même d'ailleurs parlé.
Non, c'est
donc,
toi qui en avais parlé.
Ah, c'est moi qui en avais parlé, je sais plus. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, a priori, il y a une amélioration. Et notamment depuis qu'on parle de cette partie du corps féminin cachée si longtemps qu'est le clitoris,
oh hein,
voilà, qu'on avait gentiment oublié.
Oui.
Même dans les livres d'anatomie. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, il y a sûrement un effet comme ça. Et puis moi, je pense qu'il y a un deuxième effet et qui est plutôt positif. Alors, je sais que les réactionnaires de tous bords en ce moment, ils disent oui, c'est à cause du wokisme, tout ça. Mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt grâce au consentement. C'est-à-dire qu'en fait, on se force moins à faire l'amour, parce que c'est plus vu comme quelque chose d'obligatoire, parce que je pense justement qu'on commence à s'éduquer collectivement au consentement, et ça évite, en fait, de faire l'amour pour faire l'amour. Et on fait l'amour quand on en a vraiment envie. Et du coup, ça peut expliquer la diminution, mais de façon plutôt positive, de dire, bah, en fait, bah, on se sent plus obligé de. Voilà, on le fait vraiment quand on le souhaite, et les partenaires peut-être s'écoutent un peu plus. Ça peut aider aussi pas mal, quoi.
Effectivement, et mon autre donnée qui a retenu mon attention rejoint ce que tu viens de dire, c'est la proportion de personnes de 18 à 69 ans ayant eu souvent ou parfois des rapports sexuels pour faire plaisir à leur partenaire sans en avoir vraiment envie elles-mêmes. Et ben, ça a diminué dans le milieu des années 2000 chez les femmes, passant de 50,9% en 2006 à 43,7% en 2023.
Ce qui est encore très élevé. Hein,
alors qu'elle est restée stable chez les hommes, 24,4% en 2006 et 23,4% en 2023. Et c'est ce que je me suis écrit, c'est, je trouve c'est tôt, mais tellement élevé.
Ça reste
alors, c'est, on peut se dire, ok, ça a diminué, et il faut aussi le voir comme ça et se dire... Ok,
mais il faut que ça continue à diminuer.
Mais en fait, c'est ça, c'est quand même fou. Et je me le suis noté, on le rappellera ici encore, si votre partenaire n'a pas envie de sexe, c'est son droit. Ok.
Je trouve c'est pas grave.
Non. Et qu'il est qu'il s'oblige à,
là, c'est
ne
grave.
Devrait clairement pas vous satisfaire. Parce que ça veut dire que vous êtes le seul à prendre votre pied en fait. Et une partie de plaisir à deux. C'est dommage quand même quand il y en a une qui sort pas du tout satisfaite.
Ça rejoint en fait l'éternelle vision tronquée que aujourd'hui beaucoup de gens essayent de passer dans les médias autour, justement, je reviens sur cette notion, le wokisme, tout ça, donc plutôt des réactionnaires globalement, enfin faut pas non plus se mentir, qui essayent de faire croire qu'en fait le fait de parler, de se parler même pendant l'acte, ou même d'ailleurs de se parler tout court, hein, de se parler avant, d'en parler, serait une forme de coercition ou de, comme ils disent, il faut faire des contrats. Tout ça.
Oui.
Alors ça n'est, non, personne ne parle de contrat. Enfin, je dirais, sauf peut-être quelques agents de footballeurs qui veulent faire des contrats, mais eux c'est pour que leur poulain puisse violer qui ils veulent. Ça c'est un autre problème. Je ferme la parenthèse. Et ça n'est pas du tout du consentement.
Non.
Mais par contre, très clairement dans la vie de tous les jours, en fait, le fait de se parler, le fait de poser les choses, va avoir cet effet en fait d'aller vers plus de choses qu'on aime et moins de choses qu'on n'aime pas. Et donc automatiquement il va y avoir un rééquilibrage qui va se produire, et c'est plutôt positif, et c'est peut-être ce qu'on commence à voir poindre dans ces chiffres-là. Mais ce qui est hallucinant, c'est de voir le backlash, enfin le retour de bâton actuel de toute une partie des artistes, des toutologues de la télévision, des hommes politiques ou des choses comme ça, qui d'un seul coup sont en train de dénigrer ce qui est une continuité de ce qu'on peut appeler une libération sexuelle au sens positif du terme, et pas au sens uniquement machiste du terme ou patriarcal du terme, mais qui serait une libération de tout le monde en fait. Et là, j'ai tendance à penser que c'est plutôt cool de voir que dans les pays où en fait ces questions se sont adressées, parce que tu citais le Japon, le Royaume-Uni, et c'est des pays où on voit, hein, notamment la vague MeToo, on voit ce que ça a pu faire, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que ça commence à bouger. Encore une fois, comme tu le disais, ça n'est pas réglé.
Ah non,
c'est pas parce que ça bouge un peu que c'est réglé. Mais moi, je trouve ça plutôt positif de se dire que aujourd'hui, on voit une diminution des gens qui se forcent à faire des choses.
Oui.
On voit plus de plaisir dans les rapports où les gens disent c'était plutôt plaisant, parce que du coup, peut-être qu'on ose plus se dire ce qui nous plaît. C'est quand même plutôt positif. Donc voilà, en fait, il y a toute cette ambiance actuelle, et on voit à quel point ça a un côté, je dirais, révolutionnaire. Parce que sinon, les réactionnaires ne réagiraient pas autant.
C'est ça.
C'est clair. Quand vous voyez autant de gens expliquer à quel point c'est dangereux, c'est que quelque part, ça doit être un peu un moyen de changer la société.
C'est vrai que c'est dangereux que chaque individu soit respecté.
De leur point de vue, oui. Mais je rappelle quand même un débat surréaliste que vous pouvez trouver sur Internet, qui a eu lieu sur la fameuse chaîne d'extrême droite CNews, sur la natalité, où on a quand même des gens qui mettent qui mettent des responsabilités sur le fait que les gens ne fassent plus d'enfants, mais surréaliste. Et une femme qui explique que c'est parce qu'on a des téléphones portables, donc on préférerait être chacun sur son téléphone portable au lit plutôt que de faire l'amour. D'abord, faut lui expliquer qu'on fait pas l'amour que dans le lit, et ça serait déjà pas mal. Et ensuite, c'est idiot.
Enfin,
c'est
vraiment
idiot.
Non, mais...
Et il y en a un autre qui dit un truc du genre, oui, mais maintenant on oblige à se parler, alors du coup ça tue l'érotisme. Non, ça tue le fait qu'avant, quand tu parlais pas, c'était pas de l'érotisme, c'était peut-être un petit peu une agression. Ah, voilà. Ouais. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de retour, vraiment d'une sortie, voilà. Et on le voit autour des Trump et compagnie aussi. Mais en fait, c'est peut-être parce que justement, il faut quand même pas négliger et surtout continuer à porter cet aspect très révolutionnaire au sens changement de la société que peut avoir, cette vague MeToo, parler, le consentement, tout ça, face à une société qui est à changer profondément.
profondément, ouais. C'est ça, avec un briquet et de l'essence.
Oui, il faut tout brûler. Mais pas la planète. Hein.
C'est ça. Après, alors, je vais terminer sur un dernier point. Hein. C'est pas le plus joyeux non plus. C'est les déclarations de violences sexuelles. Hein. Elles ont, elles, sensiblement augmenté au fil du temps. Alors, je me perds pas. 15,9% des femmes de 18 à 69 ans déclaraient avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé en 2006, contre 29,8% des femmes du même âge en 2023. Ok ? En 2023, il y a aussi 33,2% des femmes de 18 à 29 ans qui ont déjà vécu une expérience préjudiciable en ligne, contre 24,7% des hommes de cette tranche d'âge. Alors la lecture qu'en font les auteurs et les autrices, en fait, est la suivante. Je partage vraiment ce qu'ils ont écrit. Enfin, je vous partage là ce qu'ils ont écrit. C'est la hausse des déclarations reflète donc à la fois la prise en compte par les enquêtés d'événements qui n'étaient pas considérés auparavant comme des violences, ainsi qu'une plus grande capacité à les dénoncer. Les résultats de cette nouvelle enquête dressent cependant un tableau de l'ampleur de ces violences qui demeure inquiétant, et les chiffres portant sur les générations les plus jeunes attestent du caractère toujours très prégnant du phénomène. Donc c'est vraiment là aussi, enfin c'est encore une fois, c'est il y a plein de choses différentes, enfin c'est multifactoriel en fait. C'est toujours
ouais, c'est le paradoxe, c'est un peu le, je sais plus qui parlait de ça une fois, mais c'est le paradoxe du dire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on peut identifier les choses, bah du coup, on a l'impression d'une augmentation. Oui. En fait, ça existait déjà avant, mais c'était pas identifié comme. Et finalement, alors je vais mettre des énormes guillemets à ce que je vais dire, c'est positif qu'on ait une augmentation, parce que ça veut dire qu'on identifie mieux tout ça. Par contre, bah comme ils le disent et comme tu le disais, c'est terrible de se dire qu'on en est encore là.
Oui.
Voilà, c'est là qu'il y a encore du boulot. Ben, c'est pour ça que les gens qui nous font des livres pour expliquer le danger MeToo, parce que soi-disant on serait arrivé à trop loin, bah faudrait juste leur expliquer que vu les chiffres, ça va, il y a de la marge.
Ouais,
ah, le danger il est pas là, il est plutôt de l'autre côté.
Oui, voilà. C'est ça en fait. Quoi.
Le truc,
et ouais, encore une fois, enfin je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là encore, je vous invite à aller voir l'enquête. Mais c'est vraiment intéressant justement cette notion de verbalisation des choses, parce que ça rejoint un peu, je trouve, le point d'avant, c'est-à-dire quelqu'un qui se force, qui se forçait ou qui se force, on peut appeler ça quand même un viol. En fait,
dans tous les cas, c'est une violence sexuelle.
On peut appeler ça, alors, au moins une violence sexuelle. Ben, en fait, on peut partir du principe que avant, c'était pas forcément, on n'avait pas cette lecture-là, quoi. C'est-à-dire, on se disait, bon, bah, je me suis forcé, quoi. Oui, mais en fait, attends, c'est pas normal,
oui,
en fait.
D'accord.
Donc, il y a vraiment, enfin, ouais, je rejoins ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'il y a en même temps quelque chose où on peut se dire, ben, on arrive à identifier les choses, on arrive à les dire, ça, c'est hyper important, et en même temps. Encore une fois, quand on regarde les graphiques, etc., bah, on n'en est pas sorti complètement. Hein.
Ça veut surtout dire qu'il y a une aberration en ce moment, on va dire politique, à vouloir lutter, comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens, et y compris certains à gauche, parce qu'il faut arrêter de croire que ça vient que de l'extrême droite et de la droite, de vouloir lutter contre le fait qu'il y a des interventions sur la sexualité à l'école, sur le droit du corps, le droit...
Ségolène Royal, si tu nous écoutes.
Voilà, non, mais par exemple... Non, mais
est-ce qu'elle était à gauche, elle, pardon.
Ou Valls, qui est un ministre de gauche,
aussi,
mais qui a des positions, et qui est au gouvernement, et qui a des positions là-dessus qui sont mais hallucinantes. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'entendre quelqu'un des années 50, enfin, c'est ouais, et ouais, on va me dire, Valls, c'est peut-être pas de gauche, oui, ok, sauf qu'il vient quand même de la gauche, je suis désolé, hein, vous faites ce que vous voulez avec, mais voilà. Ou même d'ailleurs, j'ai entendu Olivier Faure sur le sujet, qui est le président du Parti Socialiste, qui est pas d'une clarté absolue quand même, qui nous voit entre l'œuf, faut pas choquer, mais en même temps c'est important, bah oui, mais en fait à un moment donné, voilà, soit c'est important, soit ça l'est pas. Donc voilà, il y a quand même des choses, et on se rend compte du besoin qu'il y a aujourd'hui, et encore une fois, pas qu'à l'école, il faut en parler de partout, et il faut que on s'empare du sujet, il faut que ça devienne un sujet politique, et profondément politique, et on ne doit plus accepter certaines choses. Et encore une fois, moi, quand on me parle de radicalité ou d'excès, quand on dit, par exemple, qu'un Adrien Quatennens ne devrait plus siéger, ou ne devrait plus être intégré à un parti politique qui se dit féministe, ben, je suis pas sûr que ce soit de l'excès. Je pense qu'à un moment donné, ça s'appelle avoir une cohérence politique. Et voilà, je prends cet exemple à gauche parce qu'il est parlant.
bien aussi.
Et que bah, c'est compliqué après de dire on veut lutter contre, mais quand quelqu'un l'a fait, bah, finalement c'est un pompote, alors peut-être qu'il faut comprendre que...
En fait, c'est là où on retombe aussi sur ce qui se passe ailleurs dans la société, c'est-à-dire que quand l'agresseur est proche du chef ou de quelqu'un qui a de l'importance...
Bah, c'est moins grave quand il est pas
proche. D'un coup, c'est vachement plus excusable.
Non, mais je dis ça parce que c'est de l'ordre du symbole, et les symboles sont importants dans ces questions-là. Et donc voilà.
Très bien. Voilà. Alors évidemment, je pourrais vous parler encore longtemps, hein, d'autres volets que contient cette enquête, hein, tant elle est intéressante, comme sur la santé sexuelle, hein, on parle d'IST, on parle de chlamydia, on parle d'hépatite C, de vaccination, etc.
Ah, protégez-vous parce que c'est en plein boom.
Oui, justement, c'est un peu le truc. L'acceptation aussi ou non des personnes trans, des personnes non hétérosexuelles, mais ça parle aussi des grossesses non désirée, etc., etc. Mais encore une fois, hein, le plus simple, c'est de vous plonger dans cette enquête d'une quarantaine de pages. Je suis arrivé à le bouquiner, donc vraiment, je pense que vous êtes majoritairement en capacité de le faire aussi. Donc, on le mettra sur le blog, comme je le disais en début. Et cette enquête va être complétée par d'autres, hein, parce que comme dit, là, c'est le premier volet, enfin... J'ai pas toute l'organisation interne de l'INSERM, mais d'autres devraient sortir parce que là, il disait, c'est un peu plus axé sur l'Hexagone.
Ouais.
Donc, d'autres études, d'autres chiffres vont sortir certainement sur.
Par région, peut-être.
Ouais. Par région, etc. Donc, et tout ça devrait être réuni, si j'ai bien compris, dans un bouquin qui devrait sortir en 2026 sur la sexualité au sens large des Français et Françaises. Et donc, ça, c'est normalement pour 2026, mais peut-être qu'on en reparlera quand d'autres résultats sortiront. Mais encore une fois, vraiment, je vous invite à y aller. Vraiment, lisez ce graphique. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et comme dans chaque étude, hein, les étudiants, les scientifiques ont fait un petit résumé de leurs une analyse de leurs études, de leur étude, et c'est hyper compréhensible, vraiment. Donc,
oui, c'est vulgarisé.
Oui, c'est vraiment hyper accessible. Donc voilà.
Ouais, moi, je voulais juste te dire, tu parlais du fait, enfin, on parlait du fait que c'était loin d'être fini, qu'il y avait encore du boulot. Moi, je tiens juste à rappeler qu'il y a quand même entre 5 et 10 000 ordures qui ont manifesté à Paris aujourd'hui contre la loi Veil et contre l'avortement.
Contre le choix.
Contre le choix. Donc, ce sont des anti-choix, ça porte un nom. Et donc, du coup, on voit qu'il y a quand même du boulot parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, ils n'étaient pas 5 à 10 000. Ils étaient 500 et voilà. Ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Alors, peut-être qu'il va falloir aller retomber la bête.
Ouais. Et pardon, et j'ai oublié de le dire, mais en fait, avant, quand tu parlais justement des reculs, etc., je vous rappellerai juste, enfin, replongez-vous dans l'ABCD de l'égalité.
Ah, bah oui, c'était.
C'était, je crois, une certaine gauche au pouvoir. Alors, on peut dire qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas assez des trucs. Enfin bon, même si ceux qui aujourd'hui se revendiquent plus radicaux en sortent depuis, y étaient dans ce parti socialiste depuis 30 ans, enfin bref, Mélenchon, si tu nous écoutes, enfin, j'espère pas non plus. bref, mais en fait, là aussi, en fait, c'est on plie. Parce qu'on ne veut pas heurter, parce qu'on ne veut pas être au combat, en fait. Sauf que ce soit les LGBT, etc., ils sont habitués à être au combat face à ces gens-là.
Et les femmes.
Et les femmes, mais bien évidemment. Et donc, à un moment donné, juste tous les autres, si vous n'êtes pas senti concerné jusque-là, il faudrait vous sortir les doigts et peut-être aussi réunir ces cortèges et se dire on va arrêter de les laisser passer parce que. Les laisser passer, c'est peut-être aussi demain, même si le boulevard est déjà bien grand ouvert, c'est l'extrême droite qui va arriver, comme ça se passe dans plein d'autres pays européens, aussi aux États-Unis, etc. Ce sont ces gens-là, en fait, qui reprennent le pouvoir. Donc, si on ne veut pas leur laisser le pouvoir, il ne va pas falloir les laisser passer, ne serait-ce que pour un ABC de l'égalité à l'école. C'est déjà leur laisser la main, et il ne faut plus leur laisser la main. Après ce petit coup de gueule, je propose que nous passions à la musique. C'est un peu énervé, je crois.
Respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty. Learning to love yourself is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty. C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty, cunty, cunty. Wow! Is cunty having autistic meltdowns? Cunty dragging behind some bins. Cunty doing a poo at your friend's house. Cunty.
shame, I'm cunty.
Waouh, j'avais prévenu, ça dégage. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canus, c'est toujours la causerie évidemment, et nous venons d'écouter les Lambrini Girls avec le titre Cantology 101. Et je vous invite.
Elles envoient du bois.
Ah bah je vous invite à écouter leur dernier album qui est sorti il y a quelques jours. Ça, ouais, c'est ça, ça envoie du bois.
Ah ouais, bah c'est une expression de vieux, mais c'est ce qui m'est venu.
C'est tout à fait ça, c'est pour ça que je la reprenais, parce que ça m'a un peu étranger, ce genre d'expression.
Voilà.
Bref, donc oui. C'est Fab, tu as quelques petits rendez-vous à tenir.
Alors ça commence mardi 21 janvier, là, une table ronde, les médias indépendants face à l'extrême droitisation du paysage médiatique. Et j'aurais bien aimé y aller, mais moi je ne serais pas là. Mais en tout cas, c'est à l'Alternative Bar et c'est à 19h. Et l'Alternative Bar, c'est 126 Montée de la Grande Côte. Mais oui.
Et je crois qu'il y aura rue 89 Lyon.
Il y a rue 89 Lyon, il y a la revue Silence, il y a aussi, a priori, il y aura une ou deux personnes de Radio Canu aussi.
Ah, okay.
Donc voilà, du coup, c'est cool. Mais c'est voilà, parce qu'on se pose vraiment aussi nous, des questions, nous, petites radios indépendantes, face à la montée du fascisme. Ce n'est pas toujours des questions simples, il faut se les poser.
Oui, oui, ça rejoint aussi ce qu'on a pu discuter quand rue 89 Lyon était venue. On a pu discuter aussi de l'autonomie, on va dire, financière des médias, etc. Et aussi, la semaine dernière, quand je parlais de la caricaturiste qui s'est barrée d'un journal aux États-Unis parce qu'appartenant à Bezos qui s'est couché devant Trump, ça rejoint, je trouve, toutes ces choses-là, quoi. Pardon, je te laisse continuer.
Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a aussi quelque chose, alors c'est le même soir, mais ça me paraît extrêmement important. Il y a le groupe de parole MeToo Inceste, qui, donc Inceste et Pédocriminalité, qui lance en fait des groupes de parole tous les mois. Donc ce sera au Jusqu'ici, donc il faut s'inscrire à une adresse qui est MeTooIncesteLyon@gmail.com, tout attaché MeTooIncesteLyon. Il n'y a pas de hashtag, hein, c'est MeTooIncesteLyon. Pourquoi il faut s'inscrire? Parce qu'on va quand même vous poser quelques questions avant que vous débarquiez, et c'est parfaitement normal. Et donc c'est au Jusqu'ici, 169 Grande Rue de la Guillotière dans le 7e. Voilà, donc c'est un groupe de parole pour les personnes ayant vécu l'inceste et ou la pédocriminalité. Voilà, ça me paraissait hyper important de donner cette info.
Tu fais bien.
Ensuite, il y a quand même quelque chose qui vient d'émerger. C'est La Comète. Alors, La Comète, c'est le nom du local féministe autogéré. C'est leur nom qu'elles ont retenu. Et donc, à La Comète, il y a tous les mercredis, il y a donc maintenant un... Comment on appelle ça? Je vais y arriver.
Atelier.
Une réunion. Une réunion de comment qu'on fait tourner le lieu. Voilà, et donc c'est tous les mercredis à 19h à l'espace La Comète, et le seul truc, c'est que je ne retrouve plus l'adresse.
Mais, c'est voilà. Dans le 9e, je crois.
Ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est 4 rue Nérard, Lyon 9e, ouais, métro Valmy, voilà. Et juste dernière chose, pardon, parce qu'il y avait, oui, j'ai perdu le dernier que je voulais donner, donc vas-y, meuble.
Je meuble, tu es en train de chercher une actualité, je vais chercher.
Oui, alors voilà, j'ai retrouvé. C'est pour les gens qui aiment bien comprendre pourquoi des fois on s'engueule politiquement, même si on est du même bord. Il y a une présentation d'un livre qui s'appelle La Division Politique, et c'est à l'Amicale du Futur, voilà, et c'est donc vendredi à partir de 18h, et bon, je résumais le bouquin un peu volontairement de façon ironique, mais c'est l'idée de voir comment on nous sépare politiquement quand parfois il n'y a peut-être pas de raison de l'être. Voilà. Ouais. Et donc c'est à 18h, c'est à l'Amicale du Futur, et c'est 31 rue Sébastien Griffe dans le 7e. Voilà.
Très bien. Et on va se quitter. Alors moi, je voulais juste aussi dire, on vous avait parlé de Ciel.
Oui.
Et je vous avais dit, ah, c'est la semaine prochaine, je sais pas quoi. En fait, si elle est passée dans l'émission Transculture, donc c'est fait. Donc
c'était le 11 janvier.
C'est ça. Donc vous pouvez retrouver le podcast sur, je crois.
Sur YouTube.
Sur YouTube.
À Transculture.
Et je pense que Transculture a peut-être un blog aussi sur les ondes de Radio Canu.
Ils ont aussi un Facebook, ils ont un blog.
Voilà. Donc voilà, si vous voulez découvrir Ciel, que je me trompe, enfin, vu que je m'étais trompé, je vous donne l'info. Donc on va se quitter. Avant ça, je vais vous rappeler, si vous voulez nous écrire, évidemment, c'est toujours par mail à lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Si vous voulez écouter les autres émissions, si vous dites, oh là là, j'ai raté la 512e émission, vous la retrouvez évidemment sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacausericanu.
Et on fait des QCM pour vérifier que vous êtes écouté.
Évidemment. Évidemment, vous retrouvez aussi ce podcast sur différentes plateformes d'écoute. Je ne vais pas les citer là, mais voilà, vous tapez toujours pareil, La Causerie Radio Canu, et vous devriez nous retrouver et nous reconnaître avec notre petite radio, avec les petites chauves-souris qui lèvent les mains. Lève les points.
Les points, ouais, pas les mêmes.
Les mains.
Wow. Des chauves-souris avec des points, c'est bien.
C'est parce que c'est un grand 8. bon, ben voilà, j'ai dit assez de conneries. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à partir de 22h,
ouais,
sur l'antenne de Radio Canu. Et je crois que c'est Clara qui va nous annoncer le dernier titre, n'est-ce pas?
Oui, c'est moi. Donc on se quitte avec Serhat Massive et Jeanne Haddad. Et le titre...
Non, ah ouais, alors ok, j'écris très mal.
Oui, t'écris très mal, ouais, peut-être.
Scratch Massive.
Ah oui. Ah oui, c'est écrit, en fait.
Mais non, mais il devrait penser à nommer ça. Serhat, c'est joli.
Serhat, oui, c'est vrai. C'est, oui, je trouve ça plus
ça
joli.
Ça sonne bien, ouais, à l'oreille.
Bref, mais... on se quitte donc avec Scratch Massive et Jeanne Haddad et le titre You Can't Hide. You Can't Hide.
Ouais. Yes.
Qui vient de sortir.
À dimanche prochain. Bonne semaine. Des
à dimanche.
Ciao.
Des bisous.
Ciao.
and the air was cold. The wind was blowing, can you recall? We've traveled far, as we've been told. It's getting lonely, it's getting old.